des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait. En effet.
De la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société, crise des représentations, des institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et se fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire.
Bonjour, aujourd'hui les philosophes publics sont réunis pour une seconde émission sur l'égalité avec Monique, Anne-Sophie, Louisa et moi-même, Marc. Et si vous voulez écouter notre première émission sur l'égalité, vous pouvez aller sur un moteur de recherche sur Internet, taper les philosophes publics Radio Grenouille et vous tomberez directement sur notre page. Et puis si vous voulez être tenu au courant de ce que nous avons fait, de ce que nous ferons, nous avons également une page Facebook qui s'appelle Les Philosophes Publics, sur laquelle nous mettons des comptes rendus de nos différentes actions et des annonces des actions à venir. Alors, une deuxième émission sur l'égalité. L'égalité nous préoccupe dans la mesure où ce concept est relativement absent du débat public, trop absent en tout cas par rapport à la réalité des inégalités. Et nous avons voulu nous interroger à la fois sur l'origine de cette absence, sur y compris le mépris que le terme d'égalité ou d'égalitarisme pouvait susciter. C'était plutôt le thème de l'émission précédente. Et puis nous nous sommes aussi demandé comment les philosophes publics eux-mêmes, par leurs actions et par leurs réflexions, pouvaient revitaliser cette réflexion sur l'égalité et remettre peut-être l'égalité sur le devant de la scène. Pour cela, aujourd'hui, nous allons évoquer notamment un livre de Pierre-Rosan Vallon qui s'appelle « La société des égaux ». Dans lequel Pierre-Rosan Vallon constate à la fois une crise de l'idée d'égalité dans un temps historique assez long, donc je ne vais pas bien sûr revenir à toutes les étapes que Rosan Vallon décrit entre la Révolution française et nos jours sur les aléas de la façon dont la société française a pensé cette idée d'égalité et s'en est emparée. En tout cas, selon Rosan Vallon, cette crise de l'égalité est synonyme d'une crise de la démocratie et rien n'est plus urgent, selon lui, justement, que de refonder et de redonner vie à l'égalité. Pour cela, il part d'un certain nombre de constats, d'un certain nombre d'analyses que je voudrais résumer rapidement. Tout d'abord, un des malaises principaux qui habitent notre société aujourd'hui, c'est un phénomène de séparatisme. Les groupes sociaux ont tendance à se séparer, à se vivre de manière interne sous une certaine forme d'homogénéité. On distinguera sans doute l'homogénéité et l'égalité. Et notamment, ils constatent, comme bien d'autres, bien évidemment, ce qu'on appelle la sécession des riches, le fait qu'en fait, les personnes très riches, à très très haut revenu, ont tendance à se séparer de la société, à la fois s'en séparer symboliquement, s'en séparer même spatialement, avec une ségrégation très forte de l'espace, une privatisation des espaces, et donc une crise aussi de l'espace public conçu vraiment comme idée d'espace à partager. Il constate également, comme beaucoup d'autres, une crise du fonctionnement de l'État-providence, surtout une crise de confiance dans l'État-providence, ça c'est très important, avec un certain malaise des classes moyennes qui ont tendance à penser qu'elles ne sont pas assez riches pour bénéficier des privilèges des classes les plus aisées, qu'elles ne sont pas assez dans la nécessité économique pour bénéficier des aides. Et donc, ça a produit une crise du civisme fiscal que nous constatons tous. Et l'impôt étant devenu aujourd'hui un élément de critique très, très forte. Et si on veut être populaire, on dit qu'on va baisser les impôts, ce qui est quand même assez inquiétant. Donc, la crise du civisme fiscal qui est assez présente. Rosan Vallon, ça, c'est un des thèmes qui l'intéresse aussi, pointe la singularisation des parcours de vie. La complexification de la société, les évolutions du modèle familial, les évolutions du modèle du monde du travail aussi, la façon de travailler font que les parcours individuels sont de plus en plus singuliers, de plus en plus différents. Il parle d'un individualisme de singularité et qu'il est parfois difficile pour la société en fait de se comprendre elle-même. La singularisation des parcours crée une certaine opacité sociale, et une société qui se comprend mal elle-même, c'est aussi une société dans laquelle prolifèrent les préjugés, les stéréotypes et les incompréhensions. Ensuite, pour aller vite, il désigne le culte concept de la concurrence. Aujourd'hui, tout doit être en concurrence et la liberté est souvent réduite à la liberté de choisir tel ou tel produit dans le cadre du marché, ce qui est évidemment fort réducteur. Et tout ceci produit un désenchantement démocratique. Et face à tous ces symptômes, l'idée de Rosan Vallon, c'est qu'il ne suffirait pas simplement de trouver des solutions économiques, qui sont bien sûr nécessaires, puisqu'un des points sur lesquels il insiste le plus, notamment en conclusion, c'est l'idée que si cette sécession des riches continue et si le séparatisme social continue, nous ne pourrons plus vivre le monde comme étant un monde commun. Voilà, la société a besoin de se vivre comme un monde commun, et ça nécessite aussi de limiter d'une certaine manière les très très hauts revenus pour pas que se constitue une sorte de contre-société. Mais, dit-il, ça ne suffit pas. Il faut aussi revenir à l'idée, dit-il, révolutionnaire, l'idée de la Révolution française, selon laquelle l'égalité, c'est aussi une qualité de relation entre les citoyens et la construction d'un monde commun. Et pour cela, il propose de cultiver trois types de communs qu'il décrit ainsi. Le commun participation, le commun compréhension et le commun circulation. Donc nous vous proposons de vous lire rapidement, en trois étapes, on ne va pas traiter les trois ensemble bien sûr, en trois étapes de lire le petit passage où il parle de ça et puis de voir peut-être les limites de son projet, comment les philosophes publics, nous inscrivons peut-être dans cette reconstruction d'un monde commun, avec là aussi bien sûr les limites de nos pratiques et une vision un petit peu réflexive et critique de ce que nous pouvons faire. Donc peut-être Louisa, s'il te plaît, si tu peux lire le petit passage qui concerne donc le commun participation.
Oui, juste un petit mot avant de le lire. C'est-à-dire, je pense que pour bien comprendre la problématique qu'on est en train de traiter maintenant, il faut la mettre en rapport avec l'émission précédente. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est que on peut se dire, je commence déjà par une pseudo-critique, c'est que de toute façon, ces sociétés très cloisonnées, très inégalitaires ont toujours existé. Et même avant, c'était encore pire que maintenant, d'une certaine manière, à l'ancien régime, on peut dire que c'était carrément voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que si ça nous choque, si Rosan Vallon fait ce constat comme quelque chose de choquant, c'est parce que justement, on est dans une société qui se veut démocratique, parce qu'on est dans l'idéal démocratique. Et que donc, en fait, ce qui pose problème, c'est que cette inégalité fait mal fonctionner ou est une des raisons principales de la crise de la démocratie. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que la problématique là qu'on est en train de traiter, au fond, c'est l'égalité, la question de l'égalité, mais comme point principal de la crise politique et de la crise démocratique. Et donc, il faut aussi se demander pourquoi l'égalité est une valeur. Et c'est ce qu'on a essayé de traiter dans l'émission précédente. Donc, c'est juste pour faire le lien, pour que ça ait plus de sens. Donc, le commun participation est le plus évident, dit Rosan Vallon. Il s'exprime dans le fait de vivre ensemble des événements. Les spectacles de musique populaire ou les manifestations sportives en sont des vecteurs ordinaires. C'est aussi le fait, hier plus qu'aujourd'hui, des carnavals ou des bals de rue, des banquets républicains également, comme des processions et rassemblements de toutes sortes. Tout cela existe encore, parfois même de façon accrue, avec par exemple la construction de stades ou de salles de concert toujours plus vastes, ou bien encore avec la vigueur de l'éthos manifestant. À côté de ce commun festif ou démonstratif, existe aussi un commun réflexif. Il résulte de la soumission à un même flux d'informations, structuré par la confrontation obligée aux urgences du moment ou à des interrogations de société. Il est décisif pour fortifier la vitalité d'une communauté. Il est indexé sur l'implication et la curiosité des citoyens, comme sur la qualité de l'univers médiatique, autant que sur celle de la vie des idées. Alors peut-être qu'on peut interroger, donc ça c'est ce que souhaite Rosan Vallon, on peut peut-être interroger pourquoi ce qui apparemment existe déjà aujourd'hui, en fait, ne fonctionne pas et ne crée pas un commun. Par exemple, pourquoi les masses médias ne créent pas finalement ce commun qui est censé exister. Pourquoi la participation à des manifestations comme théâtrales ou culturelles, bien qu'elles soient ouvertes au public, ne soit pas réellement de l'ordre du public. Voilà, on peut peut-être interroger ça et voir comment nous, qui nous appelons philosophes publics, essayons modestement de déconstruire cela. Peut-être, Monique, par rapport aux mass médias.
Oui, mais ça me semblait être... la question-là me semblait se rapporter plus directement sur le commun intercompréhension que ouais. sur le commun donc, de participation. Parce que justement, au philosophe public, on essaye modestement, il me semble, de faire vivre le commun festif et le commun réflexif, c'est-à-dire qu'on on s'amuse bien ensemble. C'est aussi la fête pour nous de se retrouver. Et puis c'est aussi la fête que d'intervenir dans l'espace public et de construire ou d'essayer de construire un espace de réflexion dans l'espace public qui nous fasse cheminer nous-mêmes en même temps donc que d'autres et par les autres aussi.
Et c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant là, dans le fait de mobiliser ce texte-là, c'est que la question de Rosan Vallon, c'est vraiment la question politique, je trouve, centrale, cruciale de la modernité, c'est-à-dire comment on crée du lien, comment on crée du commun, comment on crée du collectif à l'époque de l'individualisme. C'est bien ça quand même le problème, hein. C'est que nous concevons, nous, aujourd'hui, en tant qu'individus, ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie, l'individualisme, c'est une question compliquée, mais un des aspects négatifs de l'individualisme, c'est l'idée qu'on va être sans cesse tourné vers notre propre sphère privée, et qu'on a donc du mal, par définition, à aller vers ce qui relève du politique, voilà, du commun, du social, etc. Et donc, finalement, moi, ce texte me rappelle déjà beaucoup la problématique qui est celle de Rousseau dans le contrat social. C'est-à-dire comment on fait société ensemble, comment on vit ensemble, comment on dépasse notre propre individualisme pour admettre l'idée que effectivement on ne peut pas vivre indépendamment des autres et de ce commun qui est si important pour chacun d'entre nous. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cet extrait-là, c'est que on l'a lu rapidement, mais derrière ça, je vois l'absence de la religion comme étant un des fondements premier du commun participation. Comment on pense ça, ce commun-là, indépendamment du religieux ? Et c'est déjà la question, finalement, en un sens de Rousseau, qui, lui, mobilisera justement le concept de religion civile pour essayer de trouver une autre modalité qui ne repose pas sur une transcendance de liaison entre les citoyens, finalement. Parce que
il part de religion civile, quand même.
Oui, religion civile, justement, je viens de le mentionner, ouais.
Ouais, Louisa.
Voilà. Juste que ça me fait penser ce que dit Anne-Sophie, qu'il y a quelque chose peut-être qui est derrière ce que veut dire Rosan Vallon, c'est que pour qu'il y ait du commun, il faut qu'il y ait des passions communes et ouais. pas que de la raison.
Exactement.
C'est-à-dire que, et ça aussi c'est quelque chose que montrait Rousseau, le citoyen c'est pas un intellect, le citoyen se construit passionnellement. Il faut qu'il crée des passions. Il faut qu'il y ait un amour de la citoyenneté, un amour de la loi. Et comment construire cette passion ? C'est peut-être ça le vrai problème.
Mais dans la fête, il y a cette dimension de passion. Moi, il me semble quand même que la fête, justement, c'est l'espace de l'égalité qui fait vivre la différence. C'est-à-dire, dans la fête, chacun est à sa manière et il y a une possibilité pour chacun d'être festif, de participer au banquet, mais en apportant sa part. Mais il n'y a pas d'uniformité ou d'homogénéité donc des comportements.
Même, qu'il y a liberté aussi dans la fête.
Moi, on voit bien dans la liberté de danser, par exemple. Chacun danse à sa manière et il y a une coexistence des danses, et c'est cette coexistence qui fait la fête réussie, alors même que chacun danse de manière différente des autres.
Ce qui veut dire que le corps aussi est engagé dans le commun.
Et que le corps, c'est les passions.
Ouais, exactement.
Oui, et puis la difficulté pour les philosophes publics, elle est double, me semble-t-il. D'abord, c'est les espaces de réflexion, puisque nous, on essaie de créer du commun réflexif que nous proposons, attirent souvent des individus qui ont déjà accès à un certain type d'information, un certain type de culture qui peut un petit peu ressembler à la nôtre. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté également, c'est qu'en tant que professeur de philosophie, puisque nous sommes tous professeurs de philosophie, nous n'avons pas au sens strict du terme, des informations à communiquer au public qui vient vers nous. Enfin, on peut éventuellement, on peut se renseigner, on peut avoir des statistiques économiques, sociologiques, etc. Mais ni plus ni moins que les autres, d'une certaine manière. Ce qu'on peut amener éventuellement, c'est une certaine forme de méthodologie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans certaines expériences des philosophes publics, notamment avec les employés municipaux ou avec les jeunes de la MJC de Saint-Louis, etc., c'est de voir qu'en fait, nous apportions une certaine forme d'exigence intellectuelle, d'exigence de la communication, la difficulté étant justement pour créer vraiment du commun, il faut que nous arrivions à partager ça. Peut-être que la plus grande difficulté, c'est de ne pas arriver en tant que professeur et de rester dans ce rôle-là tout le temps, c'est d'arriver à partager vraiment avec nos interlocuteurs les règles de l'argumentation, l'exigence de réfutation, l'exigence de définition, etc. Et de ne pas les apporter comme quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire de permettre à chacun de se les approprier. Je crois que ce qui est un peu délicat dans notre exercice, c'est ça, c'est comment créer du commun, c'est-à-dire créer de l'égalité, puisque le thème, c'est l'égalité. Comment être à égalité avec tous les publics que nous rencontrons, tout en sachant qu'eux ne nous voient pas forcément à égalité, parce qu'ils savent que nous sommes enseignants, qui plus est enseignants de philosophie.
Mais moi, il me semble que c'est le fait qu'on se présente comme philosophe et enseignant de philosophie qui provoque une exigence intellectuelle parfois. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait qu'on arrive avec une mallette de savoir à dispenser, parce que ça nous intéresse pas d'arriver comme tel, et c'est pas ce qu'on cherche à faire, hein, dispenser un quelconque savoir sur une question donnée. Mais par contre, si nous ne nous présentions pas comme enseignant de philosophie, il me semble que c'était effort intellectuel ne serait pas nécessairement fait, alors qu'il est tout au service de l'intelligence et de la possibilité justement de construire au plan argumentatif et de se situer sur un terrain qui est celui de la raison et de la raison publique justement.
Oui, puis je pense aussi que voilà, cette expérience aussi, chacun d'entre nous a pu constater dans quelle mesure partager, être dans le commun d'une réflexion qui est véritablement commune, et c'est aussi en sortir soi transformé en fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que ça nous bouge nous aussi dans nos voilà.
Ce qui, Anne-Sophie, nous fournit une transition magnifique avec le deuxième type de commun. Alors Monique, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire le deuxième petit paragraphe, donc qui traite du commun intercompréhension.
Alors il rejoint, donc le commun participation rejoint en cela le commun intercompréhension fondé sur le fait d'une connaissance réciproque. Celui-ci se nourrit de contacts et d'images, d'enquêtes et de récits de vie, de statistiques appropriées, d'analyses méthodiques autant que de reportages saisissants mêlant les registres du savant et du sensible, de la parole singulière et du fait social. Il est de cette façon un réducteur possible de préjugés et de slogans, un dynamiteur d'idées reçues. Sa mise en œuvre revient à l'intellectuel autant qu'au journaliste, au militant exprimant la condition de ses compagnons de vie ou de travail, autant qu'à l'enquêteur public, au rédacteur de blog, autant qu'aux artistes qui mettent en image ou en chanson la vie du monde.
Alors ça, c'est vrai que chez Rosan Ballon, c'est assez important. On sait que Rosan Ballon a créé un site qui s'appelle Le Parlement des Invisibles, raconter la vie pour donner la parole. Et les philosophes publics, je trouve que nous sommes assez à notre place lorsque, en prison, au Baumettes, pour en parler, et ailleurs, nous donnons la parole et nous recueillons finalement des témoignages, des récits d'expériences qui sont problématisées, dans lesquelles nous insufflons un petit peu de réflexivité, de problématisation, mais qui partent malgré tout d'un point de vue particulier. On parlait tout à l'heure de la singularisation des parcours dans notre société, justement où quelqu'un va pouvoir parler à partir de son point de vue et poser des questions peut-être qui touchent la société, donc.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'au Baumettes, donc à la MAF, c'est-à-dire à la maison d'arrêt des femmes, nous intervenons assez régulièrement dans l'année civile, une fois tous les 15 jours. Hein, donc là, la période est très régulière et à la fois rapprochée.
Nous allons d'ailleurs faire une émission pour raconter cette expérience.
Et il y a un effort de notre part de médiation qui me semble utile, justement, par le biais de comptes rendus, qui, on le souhaite, seront bientôt donc sur Facebook aussi, sur notre page Les Philosophes Publics, donc Facebook. Et au Baumettes, il y a des ateliers philosophiques avec les prévenus, les détenus. Et ce dont nous nous rendons compte, c'est que l'intelligence est occupée, notre intelligence commune, hein, celle des prévenus et puis des intervenants, est occupée donc des mêmes problèmes, des mêmes difficultés, et que souvent donc ce sont les mêmes éléments que nous faisons intervenir pour construire des perspectives, des possibilités de solutions à ces problèmes. Autrement dit, qu'il y a une véritable communauté humaine, et que cette communauté, elle est favorisée par la rencontre, mais qu'elle existe aussi du fait de la reconnaissance qui nous est permise justement par, par le débat, par l'interaction, par ces ateliers de philosophie.
En réfléchissant là sur ce petit paragraphe, là, le commun intercompréhension, ce que je remarque, c'est que Rosan Vallon montre l'importance du sensible, du côté de la subjectivité, de la sensibilité, pour partir de là pour la réflexion. Et il me semble que c'est justement le rôle de la philosophie, et que c'est pour ça que la philosophie, là c'est le côté à la fois public, mais aussi le côté philosophe public, qui joue ce rôle-là, parce que la vraie philosophie, me semble-t-il, est une philosophie qui s'incarne, et non pas une philosophie qui est purement, purement dans le registre des idées, puisque la philosophie, c'est une réflexion sur le vécu des gens. Et donc peut-être que c'est là où la philosophie a un rôle à jouer en tant que telle dans la création d'un monde commun.
Et Anne-Sophie disait tout à l'heure, et c'était très juste, la manière dont nous-mêmes sommes transformés par ces expériences, et on parlait, Rosan Vallon pointait l'opacité de la société elle-même, nous avons un peu l'impression aujourd'hui d'une société qui se comprend mal, nous en faisons partie bien évidemment, donc là encore les philosophes publics, nous le disons souvent d'ailleurs, nous n'allons pas face à la société pour l'éclairer, pour lui donner nos lumières, mais aussi pour nous enrichir. Et comme tu le dis Louisa, il y a plusieurs aspects en fait qu'il faut prendre en compte, et si on veut créer du commun intercompréhension, il y a sans doute les sciences sociales, les sciences humaines ont bien sûr leur importance, les statistiques, les enquêtes sociologiques et autres, les récits singuliers et notamment les récits problématisés. Alors sur l'expérience sensible aussi, on a décidé de faire des cinéphilos un peu dans le même état d'esprit, puis comme le dit Rosan Vallon, la fiction aussi, il parle de chansons, la fiction, le roman, le cinéma, bon, est un art plus facilement public que la littérature, c'est pour ça que nous l'avons choisi pour des expériences, mais c'est de montrer aussi comment une question sociale, par exemple, en l'occurrence la question des inégalités qui nous occupe aujourd'hui, cette question-là peut être construite comme un problème public à partir d'un partage d'expériences sensibles. Et l'expérience sensible, c'est l'expérience vécue et c'est aussi l'expérience esthétique à travers, par exemple, le cinéma.
Moi, il me semble que la rencontre, c'est l'expérience de l'égalité. Là, c'est dans la rencontre qu'on fait cette expérience-là de l'égalité, c'est-à-dire d'un rapport problématique... d'une égalité des rapports problématiques, donc à ce qui nous concerne ou à ce qui fait véritablement difficulté pour nous dans le monde que nous habitons.
Et dans l'expérience des Baumettes, c'est vraiment frappant. Hein. À chaque fois que nous allons faire un atelier, nous n'allions pas avec un discours déjà tout fait. Hein. On part vraiment d'une discussion avec les détenus et nous en ressortons vraiment enrichis philosophiquement et humainement.
Hein. Ouais, ce sont des voix qui, les nôtres, les leurs, qui s'échangent et qui s'écoutent. Quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Et comme le dit Rosan Vallon, cette rencontre-là permet de dépasser le préjugé. Il me semble d'ailleurs que nos rencontres ont permis aussi à certains, comme tu le disais d'ailleurs Monique, de dépasser les préjugés sur les professeurs de philosophie, parce que je crois qu'il y en a de nombreux. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons un projet dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent de travailler avec des gardiens de prison, avec des policiers, avec des chefs d'entreprise qui sont aussi, comme nous tous, comme les professeurs de philosophie ou comme les détenus en prison ou comme les jeunes ou les vieux ou que sais-je, des catégories de population qui sont susceptibles de susciter des préjugés, des stéréotypes, des poncifs.
Oui, inversement, voilà, ça nous permet aussi à nous d'essayer de dépasser nos propres préjugés.
Exactement.
Et personnellement, moi, je l'ai vécu, hein, cette évolution-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'avais peut-être une certaine appréhension de m'approcher, je ne sais pas, de discuter avec un SDF ou des choses comme ça. Et actuellement, je me dis, on peut discuter avec tout le monde, on peut s'approcher avec tout le monde. Il n'y a plus ce côté, cette appréhension que je pouvais avoir. La seule appréhension chez moi, ça serait plutôt de discuter avec des universitaires qui se prennent la tête et qui, je me dirais qu'ils ne me prendraient pas, eux, moi, au sérieux. Mais par contre, discuter avec n'importe qui d'autre, vraiment, ça a changé en moi, quoi. Voilà.
Alors, on va enchaîner sur la dernière partie du texte de Rosanvallon.
Je crois même qu'on peut conclure sur cette partie, parce que finalement, l'idée, c'est que pour que tout ça soit possible, pour que la rencontre soit possible, il faut que l'espace appartienne à tous. Monique le disait, le dialogue philosophique suppose l'égalité, parce que quand je dialogue philosophiquement à quelqu'un, je ne peux pas lui dire j'ai raison parce que je suis le chef, parce que je suis plus vieux, ou parce que je n'ai pas la même couleur de peau que toi.
Parce que tu es chauve.
Hein. Ou parce que je suis chauve, c'est le refus de l'argument d'autorité. Parce que je suis un homme, par exemple, puisque dans ce studio, le seul. Je pourrais vous dire, par exemple, j'ai raison parce que je suis un homme, je ne le ferai pas. Et ça suppose aussi que l'espace soit disponible pour tout le monde. Et vous savez que les philosophes publics, nous intervenons dans la rue régulièrement. Cette idée d'occuper l'espace, c'est aussi, pour Rosanvallon, une manière de refuser cette privatisation, cette ségrégation des espaces, le fait que chacun se barricade derrière des murs et des barbelés pour mettre l'autre à distance et réinvestir la rue. C'est aussi une manière de faire vivre l'espace public. Donc peut-être, sauf si Monique et Louisa ont quelque chose à ajouter, on pourrait terminer par la lecture de ce dernier passage de Rosanvallon qui dit très bien, je crois, ce que nous voulions dire.
Oui, qui interroge aussi la ville dans laquelle on vit et comment on y vit et tous ces défauts aussi. Alors, le commun circulation, donc c'est le dernier commun dont il est question. Je lis le texte. Le commun circulation peut se définir comme un partage de l'espace. Il est de l'ordre d'une civilité, le plus souvent silencieuse, mais en même temps productrice de connaissances diffuses, d'échanges furtifs, d'un sentiment de côte à côte et par là même d'un ethos égalitaire. Il s'éprouve dans les transports, sur les places et les trottoirs. Il est mis en scène vivante d'un peuple flux en renouvellement permanent, produit par la ville et la qualité d'urbanisme. Il est à l'inverse miné par les clôtures, l'existence de quartiers enclavés et séparés, des intimidations sociales, les multiples formes de privatisation indues de l'espace. Le commun circulation est un bien public fragile. Il dépérit quand les services publics d'accès sont laissés à l'abandon. C'est dire que la politique de la ville est en son cœur et qu'elle devrait donc être un moteur essentiel d'une politique de revitalisation de l'esprit d'égalité. Effectivement, c'est crucial.
C'est une évidence.
Parfait.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette émission sur l'égalité. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines émissions consacrées aux différentes actions des philosophes publics. Merci.
Merci. Merci. Merci.
Les philosophes publics. Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et se fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire.
Comment ça vous questionne ?
Vous pouvez retrouver Les Philosophes Publics sur Facebook et sur l'antenne de Radio Grenouille.